Shake. Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. De retour avec Juliette Moreau de My Yes Life, mais pas que, on a oublié de le dire, mais tu es aussi présidente de Femtech France.
C'est vrai.
Et c'est pas rien. Et d'ailleurs, j'invite les auditrices à écouter l'épisode que j'ai fait avec Delphine, où on a vraiment parlé de Femtech France pendant une petite heure. Et félicitations pour ça, parce que c'est vraiment génial de voir que les choses bougent en France. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'initiatives aux États-Unis et vous avez fait une cartographie de toutes les initiatives de Femtech France. Et c'est trop chouette parce que quand on, soit on s'intéresse un peu au sujet, soit on a une pathologie, soit en fait juste on a envie de savoir un peu qui font bouger les lignes de la santé des femmes, ben on regarde votre cartographie et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes. Pour revenir à My S Life, donc elle a été créée il y a seulement 2 ans, ton entreprise. Mais elle a eu le temps de recevoir des prix. Le premier prix innovation de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Félicitations.
Merci.
Et à cette occasion, je voulais en profiter pour parler de l'évolution de la santé, de la définition de santé sexuelle que j'ai donnée en introduction et qui a changé depuis une cinquantaine d'années, pour en parler avec toi et voir un petit peu que tu penses de cette nouvelle définition. Donc la première, je vais la citer. Elle date de 1974. Elle est assez longue, attention. La santé sexuelle suppose la réunion de 3 conditions fondamentales. La première, être capable de jouir d'un comportement sexuel et reproducteur en harmonie avec une éthique sociale et personnelle. La deuxième, être exempt de sentiments de crainte, de honte, de culpabilité, de fausses croyances et d'autres facteurs psychologiques qui inhibent la réaction sexuelle et perturbent la relation sexuelle. Et la troisième, être exempte de troubles, de maladies et déficiences organiques qui interfèrent avec les fonctions sexuelles et reproductrices. Waouh ! Elle était très complète cette définition, elle a évolué au fil des années. Aujourd'hui, il y en a une qui date de 2006, qui a été donnée par l'OMS. Et la grande différence qu'on voit apparaître, c'est la notion de droit sexuel, mais aussi de bien-être sexuel, ce qui me plaît beaucoup. Donc je vais la relire, c'est « La santé sexuelle est un état de bien-être » physique, mentale et sociale, dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse et de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que de la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Ok, donc ça c'est sur le papier. On voit qu'il y a une prise de conscience, mais il y a beaucoup de chemin à parcourir, notamment à cause des tabous qui pèsent sur la sexualité. Qu'est-ce que tu penses de cette définition? Est-ce que tu penses qu'elle est complète? Est-ce que tu penses qu'on devrait la mettre à jour? Et est-ce que tu es optimiste sur le futur?
Oula, c'est beaucoup de questions.
Ouais, je sais. En les lisant, je me disais que c'était beaucoup.
C'est un peu ambitieux. Alors, pour être honnête, je pense que j'oserais pas me positionner sur une mise à jour ou pas de la définition, pour la bonne et simple raison que j'en ai un peu parlé avec des gens qui ont contribué à cette définition-là et que je sais à quel point c'est... Ça a été un travail, parce que la particularité de cette définition-là, et c'est un sujet que j'aimerais bien par la suite qu'on puisse aborder avec My Yes Life, c'est une définition qui convient à plusieurs cultures, voire à toutes les cultures. Parce qu'on regarde aujourd'hui beaucoup ce qu'on fait par un prisme occidental, occidental de l'Ouest. Il y a tout un pan de la manière à laquelle on aborde la santé sexuelle et en particulier la santé sexuelle des femmes qui on le voit bien dans ce qui existe aujourd'hui dans différents pays. C'est admirable qu'on arrive à trouver une définition qui aujourd'hui convienne à des pays avec des cultures, avec des religions différentes, dans lesquelles la laïcité n'est pas toujours présente. Donc, de ce point de vue-là, je n'oserais pas le discuter. Et je sais qu'en effet, ces questions-là, de culture, de religion, la notion de plaisir, c'est des questions qui ont fait l'objet de discussions assez longues. Tu avais une autre question, j'essaie de m'en souvenir. Est-ce que je suis optimiste, c'est ça? Ou il y en avait une autre avant, je crois?
Oui, enfin, en fait, l'autre réflexion, c'était ça, c'est sur le papier. Et ça, ça montre qu'il y a une prise de conscience. Et moi, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que la première définition de 74 est admirable parce que vraiment, ils ont pris le temps et ça n'a pas dû être facile. Et surtout, je trouve que pour l'époque, ça, c'était très moderne. Mais bah, ça, c'est sur le papier. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qui se passe vraiment? Et de ton point de vue de créatrice de My Eslaf, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution? Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu trouves qu'il y a des changements?
Oui. Alors, moi, j'ai 47 ans. Tu as eu la gentillesse de ne pas le préciser. Mais donc, du coup, je suis d'une génération, la génération du milieu, on va dire. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, justement, il y a une vraie évolution. Alors, il y a une vraie évolution dans le dire, dans la notion de droit, dans la revendication de générations peut-être plus jeunes que la mienne. Et qui le font, qui se saisissent de sujets, je sais pas, je vais pas y revenir. Il y a plein de très jeunes associations, de très jeunes femmes qui se saisissent de ces sujets-là, qui parlent de consentement, qui mettent en avant les notions de droit aux expériences. Donc par rapport à ça, oui, il y a d'énormes progressions avancées et je suis curieuse de voir comment ça va avancer. Là où je suis plus interrogatrice, oui, plus je m'interroge un peu plus, c'est plus justement sur comment ma génération et celles qui suivent, enfin, au-dessus de moi, vont s'approprier ça. Est-ce qu'on est en train de créer un schisme? Et c'était aussi dans cet esprit-là que j'aimerais qu'on puisse travailler, parce qu'il y a ce schisme au sein de nos sociétés, et qui est une société occidentale. Hein. Et puis après, comment est-ce qu'on englobe aussi dans la manière à laquelle on parle de santé sexuelle, de sexualité, est-ce qu'on englobe d'autres cultures? Dans nos équipes, on a une collaboratrice qui est chinoise. Je trouve ça passionnant d'échanger avec elle, de voir par rapport à une culture très différente, très différente, comment sur des thématiques qui partent de la même chose, hein, on a toutes le même corps, les mêmes organes, enfin à date, hein, on n'a pas encore trouvé de différence. Donc du coup, comment est-ce que de tout ça, les principes de la sexualité, du plaisir, ils restent les mêmes pour toutes et tous. Donc voilà, comment on évolue et comment on avance sur ces sujets-là. Je pense que l'enjeu dans les années à venir, tu me demandais un petit peu comment je vois le futur. Pour moi, l'enjeu dans les années à venir, c'est que, et en particulier pour les femmes, hein, même si ça englobe bien sûr tous les genres, mais il y a quand même un questionnement sur comment est-ce qu'on travaille avec, parce que la sexualité, ça touche, c'est aussi et beaucoup une question de culture. Donc comment mm-hmm. est-ce qu'on travaille avec d'autres cultures, d'autres générations, et où est-ce qu'on va se rejoindre?
Ok, donc c'est vrai, mais alors. Du coup, si je comprends bien, s'il y a un côté, il faut parler de tout le monde, et ça, c'est... Enfin, il faut essayer d'englober un maximum de mm-hmm. personnes. En revanche, j'ai plus de difficultés à comprendre ce que tu dis au niveau du schisme des différentes générations.
Ah, quand on parle de consentement, et ouais. On l'a vu avec MeToo, on l'a vu avec la prise de position de certaines femmes célèbres.
Ok, ouais, je vois très bien.
Quand on parle de consentement, par exemple, typiquement, c'est des choses qui sont... pas toujours clair.
Mm-hmm. C'est la fameuse zone grise.
La zone grise, hein. Mais qui est zone grise? Mais du coup, c'est intéressant parce que il y a aussi, par exemple, l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, on sait que l'orientation sexuelle est enseignée à l'école. Mais moi, j'entends aussi beaucoup de femmes de ma génération qui s'en émeuvent, qui comprennent pas. Pourtant, elles sont pas. Elles ne sont pas homophobes, elles sont les premières à se faire belle pour le mariage d'une copine avec une autre copine. Voilà, mm-hmm. c'est pas la question. Mais la question de l'éducation à l'orientation sexuelle, ben ça les heurte, c'est quelque chose auquel elles n'ont pas été préparées. Et encore une fois, c'est ok, je l'entends, mais je pense que comme on dit aujourd'hui par exemple que avec cette libération de la parole chez les femmes, c'est important aussi d'éduquer les garçons, pour pas créer un schisme. Je pense qu'il faut être aussi attentif à pas créer un schisme avec d'autres générations. Bon, après, le principe même d'une génération,
Après, une génération à l'origine, c'est 25 ans.
Ouais, voilà.
Et aujourd'hui, on est plein de petites générations avec 2-3 ans d'écart.
C'est ça.
Ok, alors j'ai envie de parler de ton podcast qui s'appelle très sobrement My Yes Life, où tu parles des sujets qui sont encore très tabous, hein, en tout cas de mon point de vue, la masturbation féminine, la sexualité des femmes avancées en âge. Je le recommande chaudement d'ailleurs. Et ce que j'adore dans tes interviews, c'est que ce n'est pas juste toi qui poses des questions comme le ferait une journaliste de manière détachée, mais elles sont très orientées par l'experte que tu es. Donc déjà, merci. Tu as invité aussi, par exemple, June Pla, qui est illustratrice et auteure de Jouissance Club, un livre, je pense, qui a bouleversé la vie sexuelle de tellement de personnes. Pourquoi tu as créé ce podcast ?
Alors, contrairement à My Yes Life, qui aborde toutes les thématiques, y compris les maladies, les cycles et tout, le podcast, on l'a volontairement orienté uniquement vers la sexualité, parce que je trouvais que c'était un bon instrument pour parler aux femmes quand elles avaient le temps. Voilà. L'idée, c'est qu'on peut aborder des sujets, même ultra tabous, sans pour autant, et que du coup on peut le faire avec son casque dans les oreilles, même dans le métro, sans qu'il y ait qui que ce soit qui puisse vous embêter sur ce sujet-là. Et le deuxième sujet, pour le coup c'est très basique, je pose souvent dans le podcast des questions que je me pose moi-même. Pour le coup, là, c'est même pas pour mes copines, c'est vraiment pour moi, même si il y a eu des podcasts où, en particulier celui sur les sextoys qui à date reste le plus rigolo pour moi. En préparation en tout cas, parce que du coup j'ai fait des sondages, mais alors vraiment j'ai pris que des potes à qui j'ai envoyé des... Voilà, je reçois 2 spécialistes des sextoys, posez-moi toutes vos questions. Et du coup, les questions les plus...
C'était quoi les questions ?
Il y a des questions surprenantes quand même, hein, parce que du coup il y avait est-ce qu'on peut le recycler ? Est-ce qu'on peut le prêter ? Est-ce qu'on peut...
Et puis comment ça se lave, ce genre de truc ?
Exactement, comment ça s'entretient ? Ouais. Donc il y avait vraiment des questions. Après, bon, évidemment, il y avait des questions plus précis sur le niveau de plaisir, sur comment on pouvait l'utiliser. Mais du coup, voilà, c'était génial parce qu'il y avait, beaucoup de questions dont je n'avais aucune idée. Et le podcast, du coup, a été une longue suite de questions de mes potes.
C'est bien, on reste dans l'ambiance de My Yes Life.
Exactement.
Alors, avant de passer à la dernière partie de notre interview, et tu sais ce qui t'attend, je voudrais te poser une dernière question sur My Yes Life et comment elle aide les femmes. Parce que comme tu le sais, cheminement, dans cette saison, en tout cas, j'ai vraiment envie de donner la parole à des femmes qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Et en plus du savoir, c'est le pouvoir, il y a aussi la possibilité d'acheter des produits sur My Yes Life. Du coup, je me demandais, est-ce que demain, ce sera une marketplace dédiée à la santé de la femme ?
Alors non, c'est pas obligatoirement comme ça que je l'avais pensé. Plus on avançait, plus on s'est rendu compte qu'on voyait émerger des produits super intéressants et qu'ils étaient souvent même plébiscités par notre communauté. Donc c'est plus dans cet esprit-là qu'on les a mis à disposition. Il y a parfois aussi des produits qui pour plein de raisons vont pas être diffusés au grand public ou ont pas encore pris leur envol en termes de distribution. Et c'était aussi dans cette idée-là de dire, mais en fait, il y a des trucs, il y a des moyens de... Je pense par exemple à la culotte gynéco, parce que c'est vraiment un produit que je trouve génial. Et je sais en plus que Marie, la créatrice, enfin la fondatrice de Ginov, les a fait avec c'est fondé sur son expérience personnelle, mais elle travaille aussi énormément avec des gynécos. Donc c'est exactement dans l'esprit de ce qu'on fait nous, c'est-à-dire par une femme qui en a eu besoin et qui l'a fait, qui l'a pensé par rapport à un besoin, et en même temps en collaboration avec des soignants. Donc aujourd'hui, pour être honnête, non, c'est pas ce vers quoi on va, mais on continue d'en proposer parce que l'idée, c'est de garder aussi ce côté pratique, exactement ce que tu décrivais, et ce côté, finalement, ok, d'accord, mais j'ai quand même toujours, j'en ai assez d'être à moitié nue à chacune de mes consultations pour mon long parcours PMA ou ma prise en charge de mon endo, et on a une piste de solution.
Eh bien, c'est super, on va se retrouver dans la dernière partie de cette interview. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en 3 parties.
Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.